Voilà.
Alors je vous disais, il y a donc une délimitation, et à la fois une délimitation et une extension du concept de sacrement. Hein. Cela, je ne fais que rapporter de manière très rapide ce qui était l'évolution de la perception du sacrement. Dans la mesure où nous pouvons apercevoir, déjà d'emblée, il y a une grande richesse elle-même dans un sacrement. Quand on célèbre le baptême, il n'y a pas que le fait de verser de l'eau. Il y a l'accueil des parents, il y a l'accueil de l'enfant, il y a l'accueil de l'assemblée, il y a tout ce qui concerne l'accueil en tant que tel, il y a les paroles qui accompagnent un geste, il y a ce qui prolonge le sacrement, vous voyez. Je dirais même, la fête qu'on fait en famille, c'est de l'ordre d'une sacramentalité. Voyez. Donc, vous voyez, il y a déjà une grande richesse du sacrement. Nous le verrons tout à l'heure, quelque part, le sacrement permet une réfraction de son agir, de son action. Mais effectivement, c'est en ce sens qu'on peut distinguer entre deux termes, sacrement et sacramentalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Sacrement est le terme précis que l'on donne à un geste précis, tel que nous l'avons reçu dans l'évolution de la réflexion théologique. Et donc on dira à sacrement, ce sont les sept sacrements. Mais justement, puisque chaque sacrement est beaucoup plus large de ce qu'il est en tant que tel, on peut parler, toujours lié à ce monde-là, hein, de sacramentalité. Par exemple, je donne à nouveau l'exemple du signe de croix. Quand je trace sur moi ou sur quelqu'un, comme on faisait autrefois, on a toujours l'impression que tracer la croix sur quelqu'un, c'est que le prêtre qui peut faire ça. Mais non, je peux bien. Autrefois, les chrétiens se saluaient en se signant avec un signe de croix sur le front. Oui, ça faisait partie. C'était normal de se saluer de cette manière-là. Eh bien, quand je fais ce geste-là, ça a quand même un caractère sacramentel. Vous l'entendez bien? C'est un geste fort. En plus, quand je fais le signe de croix sur moi, moi-même sur moi, qu'est-ce que ça me rappelle, ce signe de croix que je fais sur moi? Ça me rappelle le jour où on l'a fait sur moi, au moment du baptême. Hein? Vous voyez, le sacrement en tant que tel déborde et permet une sacramentalité diffuse dans la vie. Je donne un autre exemple dans ce jeu de sacrement et sacramentalité. Nous célébrons l'Eucharistie, n'est-ce pas? Et quand on dit Eucharistique, à quoi on pense? Le pain, l'hostie. L'hostie n'est rien d'autre que le pain qu'on a fractionné. C'est difficile à voir aujourd'hui, nous en parlerons. Mais généralement, ça devrait être cela, ça devrait nous rappeler cela. Le vin, ça nous dit le vin. Le fait de le manger, ça nous rappelle quoi? Le corps du Christ. Le fait de se nourrir. Je me nourris par le corps du Christ, mais ça me renvoie aussi à chaque fois que je mange. Le fait que la vie me vient de Dieu. Donc l'Eucharistie déborde ou illumine des aspects de ma vie. C'est assez intéressant. J'ouvre une parenthèse. Dans la règle de Saint-Benoît, qui est celle que nous suivons en tant que cistercien ou bénédictin, Saint-Benoît, par exemple, il ne parle jamais de l'Eucharistie dans sa règle, mais il parle tout le temps de la manière dont il faut manger au réfectoire. Et d'une manière très ritualisée. Hein. Donc, du coup, il y a ceux qui vont servir, les frères, ceux qui... Il faut se laver les pieds d'abord, et puis servir, se faire attention à... Mais alors, du coup, on se dit, tiens, Il ne parle pas de l'Eucharistie, mais quand on mange ensemble, ça devrait nous rappeler que nous sommes dans une dimension eucharistique. Vous voyez? Et donc, un sacrement nous renvoie à notre vie quotidienne. Et pour le dire autrement, il y a une dimension sacramentelle, où il y a une sacramentalité de la vie qui nous vient du sacrement lui-même. Et effectivement, on peut constater qu'en ce sens, pour confirmer cette relation entre le sacrement en tant que tel célébré et la sacramentalité qui déborde les sacrements, on peut le remarquer dans l'évolution qu'a eu le mot sacrement. Je vous le disais tout à l'heure, hein, je le répète très rapidement, le mot sacrement, c'est quand qu'on a commencé à appeler sacrement le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, c'est les sept sacrements. C'est simplement au XIIe siècle. Mais avant le XIIe siècle, comme je vous disais, certains auteurs disaient il y en a 14, il y en a 15. Par exemple, on disait, Augustin, le grand Augustin d'Hippone, lui aussi d'Afrique du Nord, il disait, l'Alléluia, c'est un sacrement. L'Alléluia de Pâques, c'est extraordinaire. On ne le chante pas pendant tout le carême, et le soir de la vigile pascale, on chante l'Alléluia, c'est de l'ordre d'un sacrement. Parce qu'il est le signe de la résurrection. Ou bien il disait, le lavement des pieds, le mandatum, le geste du lavement des pieds qu'on fait le jeudi saint, il disait c'est un grand sacrement. Donc vous voyez, on avait les perceptions que la dimension sacramentelle recouvrait plusieurs aspects. Et au XIIe siècle, les théologiens disent il y a quand même des sacrements majeurs. Hein, et ce sont les sept sacrements. Et des sacrements mineurs. Et c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui en théologie, je vous fais aussi un peu de vocabulaire de théologie, c'est ce qu'on appelle les sacramentaux. Je vous donnerai sacramentaux. Quelques exemples de sacramentaux. L'eau bénite, c'est un sacramental au singulier. Se signer, c'est un sacramental. Recevoir les cendres, le mercredi des cendres, c'est un sacramental. Faire une bénédiction sur quelqu'un, prononcer une bénédiction sur quelqu'un, c'est de l'ordre d'un sacramental. Comment la théologie explique cela? Il explique de cette manière-là, ils disent les sacrements majeurs, c'est-à-dire baptême, confirmation, eucharistie, ainsi de suite, les sept sacrements que nous allons voir, donnent le salut, signifient le salut reçu, font passer, quelqu'un disait, ce sont des signes de vie, font passer d'un état de mort à un état de vie, n'est-ce pas ? Donne le salut de manière efficace. Les sacramentaux participent à cette vie donnée par les sacrements. Ils ne le donnent pas directement. Ce n'est pas l'eau bénite qui nous sauve. Vous voyez ? Même si on peut avoir un engouement, même parfois on peut avoir un débordement. Vous voyez, il faut bien donner. Et cette distinction est assez intéressante, vous voyez.
Et la prière, c'est quoi?
Et la prière, c'est de l'ordre d'un sacramental. Voilà. Me mettre en prière ne me procure pas directement le salut, mais il me rappelle que j'ai reçu le salut et que je peux m'adresser à Dieu. N'est-ce pas?
Et comment se situent les sacramentaux par rapport à la liturgie?
Alors, par exemple, les sacramentaux peuvent être vécus dans un cadre liturgique,
Et avec ça, d'accord. Donc c'est plus vaste que la
liturgie. C'est plus vaste que la liturgie. D'accord. Mais par contre, je peux, honnêtement, hein, je pense que c'est pas... faut pas non plus inventer des choses, mais je peux en famille bénir quelqu'un.
Comme le bénédicité aussi.
Oui, voilà, le bénédicité avant le repas, ben, un repas, c'est de l'ordre d'un sacramental. Oui,
mais dans ce cas, j'avais compris que dans la mesure où vous faites la bénédicité, si vous le faites en pensant à Dieu, ça devient un sacrement, ça fait partie de la liturgie.
Tout à fait, naturellement. Donc, c'est un acte liturgique.
C'est ça que je vois pas autant les sacrements majeurs, c'est très clair, c'est ponctuel. Mm. Autant la distinction entre sacramentaux et liturgie me paraît plus floue.
Oui, au sens que je peux avoir un cadre liturgique pour un sacramental, mais je peux aussi le vivre de manière tout à fait personnelle ou domestique, voilà, pas dans un cadre, voilà, pas dans un cadre précis donné. Ça y est. Donc, je pense que c'est ça qui dit un peu la différence.
Ça englobe la liturgie.
Exact. Ça englobe. Il y a quand même quelque chose de rituel quand je fais le bénédicité à la maison, hein. Donc il y a quelque chose du rite. Mais il n'a pas la même dimension si je fais, par exemple, la liturgie des heures à l'église. Vous voyez ? Mais c'est de l'ordre d'un rite. Voilà. Donc tout ça pour dire, pour en conclure dans cette partie, qu'il faudrait peut-être, aujourd'hui, je dis pour les théologiens sont d'accord pour élargir les limites de la sacramentalité. Vous voyez ? Et autant, là aussi je vous fais... un schéma pour vous faire comprendre. Hein. Autant dans l'histoire de la théologie des sacrements, là je parle de la théologie, on pourrait dire qu'on est parti de très large, là nous sommes au 12e siècle, hein. Là nous sommes au 2e, 4e siècle de l'ère chrétienne. Autant à partir du 2e siècle, la sacramentalité était très large, vous voyez. Il n'y avait pas que le moment sacrement. Même, on n'avait pas la réconciliation, je vous ferai remarquer, hein, au 2e siècle. Nous le verrons quand on verra la réconciliation. Quelqu'un qui était baptisé et qui péchait gravement avait perdu sa grâce baptismale. Il ne pouvait pas se réconcilier au 2e siècle. Donc il y avait une vision très large. Et puis le 2e siècle, la rétrécit cette vision sacramentelle, disant qu'il n'y a que 7 sacrements, vous voyez, comme si la grâce passait que par 7 gestes sacramentels. Mais peu à peu, je dirais, surtout à partir du 20e siècle, cette pointe très fine de la sacramentalité est en train, dans la réflexion de la théologie catholique, de s'élargir. C'est-à-dire, on parlera aujourd'hui, c'est notamment un théologien qui était mon professeur, Paul de Clercq, comme vous dit le nom, c'est un Belge de Clercq, qui était aussi un théologien de la liturgie. Lui, il parle de réfraction des sacrements. Je vais essayer de vous les expliquer. Naturellement, l'expression réfraction, vous pouvez penser à un rayon de lumière, n'est-ce pas ? Comme d'une lampe qui a une réfraction. Et c'est exactement ça qu'il veut dire. Il y a le moment sacrement, par exemple, du baptême. Il y a le moment sacrement, mais le moment sacrement a une réfraction en tant que telle. Une réfraction, je dirais, de lumière, que j'emploie l'image de la lumière. En avant, après... En avant, c'est quoi la réflexion du baptême ? C'est par exemple un couple de parents qui dit « Je voudrais que mon enfant reçoive le baptême. » Donc là, la demande... Cette demande-là est déjà imbibée de la grâce de Dieu. Ce qui faisait dire à Chauvet, que vous avez connu, moi je refuse jamais une demande de baptême. Même si, le couple qui vient dit, vous savez, nous ne sommes pas très croyants, mais notre grand-mère nous avait dit, ce serait bien que quand ton enfant, tu as un enfant, que tu le fasses se baptiser quand même. La raison humaine dirait, voilà, c'est beaucoup de prêtres disent, oh, absolument pas. Et Chauvet dit, mais quand même, la grâce de Dieu agit dans la grand-mère et passée dans les petits-enfants, et même s'ils ne sont pas très croyants, quand même,
ils font la démarche.
Ils font la démarche. Dieu agit. Le baptême, en ce sens, réfracte bien avant le moment. Il y a un rayonnement. Mais il rayonne aussi après. C'est-à-dire, par exemple, notre exemple, l'enfant qui a reçu un baptême dans un couple très pratiquant, et qui un jour va à l'école, qui voit les enfants, ses copains qui vont au catéchisme, et qui rentre à la maison, il dit Maman, je voudrais aller au catéchisme. Mais être confirmé, par exemple. Mais là, la grâce a agi, même si les conditions n'étaient pas telles, vous voyez. Il y a une. C'est pas une puissance magique, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais je veux dire que la grâce de Dieu agit. Elle déborde de nos milieux familiaux, elle déborde de nos milieux ecclésiaux même. Vous voyez, c'est très important ça. Et donc, il faut tenir tout le temps, quand on réfléchit au sacrement, à cette importance de sacrement. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et je verse de l'eau. C'est le moment sacrement. Mais il y a aussi le moment, je voudrais bien qu'on baptise mon enfant. Qui précède bien ce moment-là. Ou bien, nous le verrons, ou bien je vais rendre visite à un malade qui n'est plus vraiment présent, qui est souffrant, et je lui tends la main, je tiens sa main, sans rien dire. Eh bien, même s'il n'y a pas d'onction du malade, en tant que, même si je n'ai pas encore fait l'onction, oh que les grandes, cette prise de main, et a une dimension sacramentelle très forte. Hein, vous voyez ? Mais cela nous ouvre donc, s'il y a cette perception d'un débordement du moment sacrement lui-même, hein, ça veut dire que cela est inscrit, ou je peux le voir aussi, dans la structure de l'histoire du salut, dans la dynamique de l'histoire du salut. Vous avez rencontré cette expression « histoire du salut ». C'est intéressant l'expression aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit à nous les chrétiens ? Qu'il n'y a pas de Dieu hors de l'histoire. C'est rassurant, n'est-ce pas ? Ça veut dire que si Dieu est passé par l'histoire pour se révéler à nous, ça veut dire qu'il est présent dans notre histoire, dans l'histoire de chacun de nous. Donc, qu'il agit. Et donc, les sacrements, effectivement, il y a une structure sacramentelle de l'histoire du salut. Quel est le plus petit paradigme de cette structure sacramentelle dans l'histoire du salut? C'est, j'y reviendrai sur la question de la création-incarnation et des paroles-signes, c'est surtout la dimension dialogale. Dieu nous parle. Dieu a parlé à sa créature, n'est-ce pas? Et donc, toute la dimension dialogale est ce qui est le paradigme le plus fondamental du sacrement. Par exemple, est-ce que vous avez remarqué, il n'y a jamais de sacrement sans dialogue. Tout sacrement comporte, par exemple, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. où le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Il y a tout le temps, hein, dans toute structure sacramentelle, quelque chose de dialogue. Mais ça nous renvoie au dialogue que Dieu a entretenu avec le peuple élu. Et donc, après, le dialogue que Jésus entretient avec les apôtres, ainsi de suite. Mais cette structure nous est donnée aussi par le jeu entre création et incarnation. Dieu crée pour pouvoir, dans le, comme on dit les théologiens, dans son débordement d'amour. Il ne crée pas un jouet quand il crée. Il crée dans son débordement de vie, de grâce, n'est-ce pas ? Vous le savez aussi que la Bible retient toujours cette création, pas comme quelque chose qu'on produit, comme c'est un magicien qui produit des choses, mais la création advient par une mise en ordre par Dieu. Il y a d'abord le chaos initial, dit la Bible, hein, mais tout se fait par ramasser l'eau, diviser l'eau de la terre, faire apparaître la lumière des ténèbres, voyez ? C'est jamais la création comme une magie, comme le lapin du chapeau, hein. C'est quelque chose qui existe déjà, mais dont Dieu met de l'ordre. Et donc, je dis toujours de manière très rassurante, quand vous faites de l'ordre dans la maison, vous créez. C'est rassurant, n'est-ce pas ? Eh bien, création et incarnation, ce sont les pôles fondamentaux de toute dimension liée au sacrement. L'incarnation, pourquoi c'est facile à retenir dans cette période de Noël, c'est la phrase, le verbe s'est fait chair. C'est-à-dire, à nouveau, notre propre foi nous dit que nous ne pouvions, que ce Dieu qu'on ne peut pas voir s'est manifesté à nous. Et comme dit Jean dans une de ses lettres, nous l'avons touché, nous avons entendu, nous l'avons goûté, nous le goûtons dans l'Eucharistie, par l'Eucharistie, n'est-ce pas ? Donc c'est un Dieu qui se montre. Donc ça aussi nous dit quelque chose des sacrements. C'est que dans l'histoire du salut, la création et l'incarnation sont comme des moments, on dirait, des sommets ou des préparations de cette rencontre entre Dieu et sa créature qui continue à devenir dans les sacrements, n'est-ce pas ? Et donc, toutes ces interventions de Dieu sont toujours rythmées ou accompagnées d'une parole et d'un signe. Il n'y a jamais qu'une parole, mais c'est souvent la parole doit être accompagnée d'un signe. Et si vous y pensez, je reviens, et si vous y pensez, tout sacrement, tout acte sacramentel n'est jamais qu'une parole, comme n'est jamais qu'un signe. Mais c'est toujours un signe accompagné par une parole. Nous le verrons après pour chaque sacrement. Mais s'il fallait retenir ça, c'est cela. Il y avait une question. Oui,
création et incarnation, effectivement, deux moments, ça paraît effectivement très intéressant. Mais à la réflexion, vous avez parlé de deux moments. Est-ce que la... Peut-être contrairement à l'incarnation, puisque l'incarnation n'est pas création, le Christ n'est pas créé, contrairement à l'incarnation, la création se fait en permanence, en continu. Donc, je comprends ça comme paradigme, mais pas comme moment.
Non.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, je comprends. Mais pourquoi la création ? Parce que dans la création, Dieu, comment dire ça ? Mais le cadre de cette relation, en créant le monde, le cosmos...
Mais il ne crée pas à chaque instant.
Mais il continue à créer, effectivement. La création se renouvelle. Et se renouvelle tellement qu'on appelle, par exemple, la mort et la résurrection du Christ, dans la théologie chrétienne, on l'appelle une nouvelle création. Il y a une sorte de rebondissement de la création première. Donc effectivement, il y a dans la vie, dans cette histoire qui continue, hein, Tout le monde, tout le temps, il y a une création de Dieu, effectivement. Il y a un débordement de cette création. Le monde n'est pas arrêté, justement. Mais il y a ce, quand je dis création, il y a ce geste initial, quand même. Hein? C'est important, c'est comme
justement,
si...
Je n'avais pas réfléchi, mais je vois pas la distinction, enfin, j'avais pas pensé en termes de geste initial, parce que la notion d'initial dans la création, je vais réfléchir, mais je comprends pas la notion.
C'est comme si Dieu donnait le ton, je sais pas comment dire, c'est difficile ces choses-là, j'essaye.
Ça devient de l'intelligent design. Là.
Oui, non, c'est de l'ordre, justement, c'est difficile à dire, c'est de l'ordre d'un débordement de cette. La création n'est pas quelque chose d'un moment, de l'expression initiale, c'est pas très heureux, mais c'est de l'ordre d'un débordement de cette.
Oui, mais tout le temps.
Tout le temps, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et donc, parole et signe, mais aussi présence. Et autocommunication de Dieu dans l'histoire. Dieu est tout le temps présent dans l'histoire, et l'expression autocommunication vient d'un grand théologien qui s'appelle Rahner. Karl Rahner, il dit qu'il y a une autocommunication de Dieu. Dieu se autocommunique. Et donc, oui. Voilà, c'est-à-dire que Dieu se met en relation à l'homme, hein, de manière un peu comme dans le sens du débordement dont on parlait tout à l'heure.
Oui.
C'est normal pour lui de se communiquer, de se rendre disponible à sa créature. Je retiens cela pour vous le dire autrement. Souvent, l'expression des anciens est plus intéressante. Parce que je l'ai retenue, et je trouve très parlante, très moderne en vérité. C'est Irénée de Lyon qui parle de cela, avant même Rahner. Irénée de Lyon, imaginez-vous, a cette vision très moderne, je trouve, de l'incarnation et donc de l'autocommunication de Dieu. Irénée de Lyon, auteur du IIe siècle, vous voyez, il dit ceci. Dieu s'est incarné, mais quand nous disons s'est incarné, notre théologie classique, qu'est-ce qu'elle dit? S'est incarné pour remédier le péché originel, n'est-ce pas? Nous avons appris ça dans le catéchisme, hein, pour essayer de. Hein. Mais Irénée dit, qui n'avait même pas cette conception, il dit, mais non, Dieu se serait incarné même s'il n'y avait pas eu de péché. Pourquoi? Parce que il fallait qu'il se rende visible. Et donc l'incarnation, pour Irénée, n'est rien d'autre que la volonté de Dieu de montrer à l'homme toute sa beauté. Vous savez que c'est de lui que vient cette phrase extraordinaire. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et donc il dit, l'incarnation n'avait pas d'objet de réparer quelque chose, selon Irénée, qui est une vision un peu négative. Mais la vision très positive, mais non, c'est parce que la seule manière de communiquer avec Dieu, c'est de le voir, de le toucher. Et donc Irénée dit, voilà, donc, l'autocommunication, c'est en ce sens-là.
C'est l'interprétation quand même.
Comment ?
C'est...
Qui vous choque?
Je ne sais pas si c'est choquant. C'est interpellant.
C'est nouveau. Et pourtant, c'est une théologie du IIe siècle, hein, qui est extrêmement intéressante, qu'après, on n'a pas retenu au sens. Avec Augustin, on est revenu, on est parti plutôt de la vision du péché originel qu'il fallait réparer. Mais c'est intéressant, quand même, cette idée que Rahner reprend, hein, ou du débordement. La création n'est qu'un débordement de la beauté de Dieu. Hein? Et c'est pareil, on pourrait dire, l'autocommunication de Dieu vient du fait que Dieu est Dieu. Et qu'il ne peut pas faire autre chose que de communiquer avec sa créature. Et dialoguer avec sa créature. C'est pas de l'ordre, je t'enjoins de communiquer avec moi. Mais je désire.
Hein, voilà. Et donc, dans cette perception de l'autocommunication de Dieu, l'incarnation en tant que telle devient le sacrement fondamental de cette relation entre Dieu et l'humanité. Dieu, le Verbe s'incarne dans le Christ, dans Jésus, et il nous révèle cette volonté de Dieu. Dans le Verbe incarné, nous trouvons cette réalité, cette volonté de la part de Dieu de se montrer, de se communiquer, de dialoguer, voilà. Et alors là, je retiens ce qu'a dit un père de l'Église qui s'appelle Léon le Grand. L'expression Le Grand vient toujours. C'est pas que c'était pas son nom de famille, le Grand. Il y avait d'autres Léons, mais lui, c'était quand même l'évêque de Rome du 5e siècle. C'est lui, entre autres, je vous ferai remarquer, vous ferez de la christologie, c'est lui qui était décisif à un concile œcuménique, le concile de Chalcédoine, pour toutes ces questions, justement, d'incarnation. Voilà. Et donc, Léon le Grand, à un moment, il dit tous les moments de la vie du Christ, dit dans une des homélies, tous les moments de la vie du Christ sont passés dans les sacrements. C'est-à-dire que les sacrements, quelque part, nous font toucher à l'incarnation, à la mort et à la résurrection, à tout ce que le Christ a vécu dans sa vie terrestre. Cette formule, je la retiens, je voudrais que vous la reteniez. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est cela. Quand on dit que dans les sacrements, nous vivons, nous participons au mystère pascal du Christ, c'est en ce sens-là. C'est-à-dire que le Christ, depuis son ascension, nous ne pouvons plus le retenir. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez jamais vu ces représentations du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge, on voit les pieds derrière le nuage du Christ dans les représentations de l'ascension, on aurait envie de les prendre, de les retenir, mais on ne peut plus retenir. Il est monté aux cieux, il intercède pour nous, dit la lettre aux Hébreux, il est en train d'intercéder pour nous, encore maintenant, jusqu'à la fin des temps, il nous a dit. Mais justement, qu'est-ce qui nous permet de toucher, surtout nous qui ne l'avons pas vu, dirait Jean, l'apôtre Jean, ce sont les sacrements, c'est par les sacrements, par ces médiations-là, dans lesquelles nous célébrons ou nous faisons mémoire de sa mort et de sa résurrection, que nous le touchons. Et que sa vie a un impact dans notre propre vie. N'est-ce pas? Et donc, effectivement, les sacrements, en ce sens, récapitule la structure fondamentale, la structure sacramentelle de l'histoire du salut, dans la mesure où il y a une corrélation entre parole et signe, dans la continuité du dialogue entre Dieu et l'homme. Donc à chaque fois que, je dirais paradoxalement, la toute brève formule que nous avons dans les actions liturgiques, « Le Seigneur soit avec vous », et nous répondons avec votre esprit, devrait à chaque fois nous rappeler que c'est Dieu lui-même qui nous interpelle. C'est pas vraiment le prêtre. Le prêtre n'est qu'une médiation de cette parole. Vous savez que cela a commencé justement dans la Genèse. C'est assez intéressant parce que les pères se sont demandé mais comment ça se fait. Vous savez que la Genèse met en œuvre cette histoire presque mythologique, je dirais, c'est pas négatif ce que je dis, de la création du monde, de la création de l'homme et de la femme, de la première comment dire, opposition à la volonté de Dieu par le commandement « Tu ne toucheras pas de l'arbre du fruit hein. ». Et c'est assez intéressant, vous l'avez remarqué, vous le remarquerez vous-même si vous rentrez à la maison, vous lisez ce passage de la Genèse. Dit-on qu'après qu'ils ont mangé du fruit défendu, Dieu marche dans le jardin au premier matin et Adam, où es-tu? Alors les pères, c'est très intéressant, qui s'amusaient à commenter ces textes, et il y a un père qui dit « Adam, s'il te plaît, réponds !» Réponds, s'il avait répondu, ça aurait bien marché. Et il se cache derrière la Genèse, vous voyez. Donc à chaque fois, le Seigneur s'attaque avec vous, c'est de dire « Sors d'où tu es !» Vous voyez, donc tout acte sacramentel, liturgique, nous met en relation avec Dieu. Nous demande de nous d'investir. Si Dieu s'auto-communique, il ne le fait pas pour lui-même, c'est pour notre bien, pour l'amour pour nous. Hein, voilà.
Et quand on dit avec votre esprit,
oui.
Je ne comprends pas ce que je dis.
Ah oui.
Avec votre esprit au prêtre.
Je reviendrai. Souvent les pères, je reviendrai, mais je peux déjà le faire comme une bande d'annonce. Généralement, les pères commencent cela pas avec ton esprit à toi, mais c'est beaucoup plus large, l'Esprit Saint. C'est-à-dire l'Esprit Saint qui t'a ordonné pour que tu deviennes celui qui célèbre ces mystères. Et donc, il n'y a pas que toi, mais je suis, moi-même, moi je vais beaucoup plus loin, à mon avis, c'est avec votre esprit. C'est presque nous-mêmes qui ordonnons celui qui doit célébrer l'Eucharistie à être ce qu'il doit être. Il y a une sorte, là aussi, de presque d'ordination. Hein, d'ordination. Je vous fais remarquer que certaines liturgies, notamment orientales, vous savez, le prêtre qui va présider l'Eucharistie est un prêtre choisi parmi d'autres prêtres. Hein, on le choisit... au moment de l'offertoire pour nous entendre. Donc, mais pour dire, la parole est avec votre esprit, dit, nous sommes en train de célébrer quelque chose qui nous vient de l'action de l'esprit. Donc, tu n'as pas le pouvoir de ça. C'est important, hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Mais on reviendra quand on parlera de l'Eucharistie. Mais c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'à nouveau, si nous revenons à ce que nous disions, cela dit l'action de Dieu qui précède l'acte sacramentel ou l'acte liturgique lui-même. Cette création continue. Hein, voilà. Et donc, vous le comprenez, tout a un sens là, hein, c'est-à-dire si l'incarnation devient le moment, le sommet de cette autocommunication de Dieu, parce que c'est là que Dieu se laisse toucher, voir, manger, hein, eh bien le Christ, là je reprends l'expression tout à fait théologique, le Christ est en ce sens le sacrement primordial. C'est le sacrement primordial. Si je veux comprendre le sacrement, c'est l'incarnation qui me le fait comprendre. Pourquoi j'ai besoin de la médiation du pain aujourd'hui, après l'ascension du Christ, pour pouvoir toucher Dieu? Parce que Dieu lui-même s'est fait chair pour que je puisse le toucher. Et pour que Dieu lui-même, par le Christ, vive exactement ce que je suis en train de vivre, de la naissance jusqu'à la mort. Vous voyez, c'est important. C'est en ce sens qu'on dit Christ, sacrement primordial, par son incarnation. Parce que, comme je dis là, le Christ rend visible l'amour et la grâce de Dieu. Hein. Et là, nous avons effectivement des affirmations très importantes de la tradition de l'Église. Alors là, je vous mets, qu'est-ce que ça veut dire la phrase, le 3-4, vous voyez? Le Christ, sacrement Et je vous mets à cause de son être, de l'ordre ontologique de son être, hein, et de son action et de ses actes. Justement, il n'est pas sacrement seulement parce qu'il est fils de Dieu et nous a donné la vie par sa mort et sa résurrection, mais aussi parce qu'il a agi. Je vous fais remarquer, et ça c'était clair dans le premier christianisme, tout engagement, je dirais, sacramentel, le fait d'être baptisé, comportait aussi des conséquences éthiques. Si j'étais baptisé en tant que chrétien, je devais vivre en tant que chrétien. Cela n'est qu'une conséquence, effectivement, du fait que Dieu, le Christ lui-même, a été, quelque part, le Verbe fait chair, mais il a aussi vécu en tant que Verbe incarné dans notre dimension d'homme et de femme et de créature. Donc il y a une dimension éthique très importante qu'on retrouve dans les sacrements, nous le verrons pour les différents sacrements. Et donc le Christ, sacrement primordial, et là je vous ai mis l'Église, sacrement principal. Là aussi, il y a toute la question, vous venez, je pense, de votre cours d'ecclésiologie, n'est-ce pas? C'est très important que vous l'ayez fait avant le cours des sacrements. Pourquoi? Parce que, je vous le rappelais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est l'Église? Vous savez le dire désormais, hein? Elle n'est pas que l'institution, c'est un corps. On dit le corps ecclésial, n'est-ce pas? C'est nous, on pourrait dire. La communauté des baptisés, n'est-ce pas? Et donc l'assemblée, je reviens à l'idée de assemblée, et donc dans une dimension liturgique, mais c'est surtout l'Église et la médiation, si je peux dire, ce qui permet la médiation entre moi baptisé et Dieu lui-même. Et donc d'où toute la dimension, je dirais, de la ministérialité. La ministérialité, le fait que les sacrements demandent qu'il y ait des ministres ordonnés pour vivre les sacrements, n'est rien d'autre, sûrement pas, c'est pas une question de pouvoir, c'est pas non plus une question de magie, c'est pas parce qu'il y a le magicien le meilleur qui connaît les formules pour le sacrement. Mais c'est simplement parce que ce ministre-là, et donc la médiation de l'Église, me dit que je ne peux pas me auto-sauver. Je ne peux pas me sauver moi-même. C'est important. Hein? Mais c'est Dieu qui me sauve. Je ne suis qu'une créature. Oh, je suis, heureusement, une créature, pas qu'une... Heureusement, je suis une créature. Et donc, j'ai besoin d'une médiation. Là, naturellement, je vous le dis et je le précise, dans une vision catholique. Les protestants mettraient beaucoup, beaucoup de nuances en cela. Ils diraient, pas trop besoin, pas trop de médiation. Mais il est vrai que les sacrements, même les sacrements que les protestants acceptent et retiennent comme étant des sacrements, ils n'appelleront pas de la même manière, ils n'appelleront pas ces sacrements, mais des actes, des signes, voilà, des signes de Dieu, eh bien, même ils retiennent le baptême, la scène, hein, bien, même pour cela, pas les autres, ça dépend des différentes confessions protestantes, des différentes obédiences protestantes. Bien, même cela nous disent, même pour cela, il y a quand même un pasteur qui officie à ces sacrements, n'est-ce pas, à ce signe. Eh bien, ce tout petit, toute petite possibilité de ministère dit bien que, effectivement, on ne peut pas se autoproduire la grâce. Et donc c'est en ce sens-là qu'on peut retenir l'Église comme sacrement principal, c'est-à-dire que c'est par l'Église que je reçois les sacrements. Quand je dis Église, ne retenez pas, vous le savez désormais, institution, retenez l'Église des baptisés. Je m'arrêterai là pour ce soir, c'est 4 heures. Retenez, donc, on va recommencer la prochaine fois par l'homme sacrement existentiel. Et puis, on enchaînera sur le baptême la prochaine fois. Merci pour votre écoute. Rentrez bien. Hein. De toute manière. Avec un tapis volant. Ouais,
Ouais.